9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Connaissez-vous le jardin secret de la République ? Marcelo Vesfrid va nous faire entrer tout à l'heure dans cette forêt de plusieurs milliers d'hectares, interdite au public. Elle est entourée d'un mur de 32 km de long. C'est là où ont lieu ce que l'on appelait naguère encore les chasses présidentielles. Alors qu'est-ce qui s'y passe ? Qui est invité ? Pourquoi n'en parle-t-on jamais ? Il va nous le raconter. Il y aura également Clou qui sort son premier album, Orage. Mais d'abord, on va se poser une question que beaucoup se posent depuis vendredi et l'attaque au hachoir devant l'ancien immeuble de Charlie Hebdo. Est-ce que cette horreur va finir un jour ? Pour tenter d'y répondre, il faut peut-être se retourner vers le passé, au temps où d'autres attentats, les attentats anarchistes, ensanglantaient l'Europe. C'était un peu comme aujourd'hui, et puis ça s'est arrêté. J'ai donc invité Jean-François Colosimo. Jean-François Colosimo, vous êtes l'auteur d'Aveuglement, Religion, Guerre, Civilisation, qui est reparu en poche l'année dernière, un livre où vous parliez et où vous compariez les attentats anarchistes qui ont duré plus de 30 ans, hein, grosso modo de 1880 à la guerre de 14, aux attentats islamistes d'aujourd'hui. Alors pourquoi et comment peut-on les comparer ?
Alors, il y a deux. On appelle d'abord cette période, là, 1880, c'est ce qu'on appelle la période classique du terrorisme, parce que c'est là où le terrorisme, vous l'avez dit, en fait, gagne toute l'Europe. Hein, c'est à Paris, c'est à Berlin, c'est à Moscou, c'est partout. Simplement, ce terrorisme-là, pendant très longtemps, ça va être un terrorisme des têtes couronnées. On va tuer le tsar, le kaiser, le président de la République, Sadi Carnot. On va tuer les ministres. On veut donner un exemple. On veut montrer que le pouvoir est fragile et qu'on peut le renverser. L'insurrection est possible. C'est une volonté de démonstration, c'est ce qu'on appelle la propagande par le fait de montrer qu'effectivement, on peut s'emparer du pouvoir. Mais en Russie, ça va être tout à fait différent. À partir des années 1890, on va basculer dans une sorte de pandémie terroriste, dans une sorte de folle poursuite où en fait, les attentats vont être quotidiens, parfois jusqu'à 20 par jour. Ils ne vont plus viser le gibier royal, hein, vous allez faire quelque chose sur les chasses tout à l'heure, mais enfin, le gibier royal, comme on disait à l'époque, mais en fait, ça va être un terrorisme indistinct. Les terroristes ne sont pas formés, ils ne sont pas préparés, ils n'émanent pas d'une cellule. Ce sont des gens qui, d'un coup, descendent dans la rue avec un couteau, un hachoir, avec un pistolet, s'ils en ont un, et qui vont tuer un passant, une passante, un quidam, qui vont tuer en fait un anonyme, si on peut dire, qui ne porte pas de responsabilité énorme en fait dans la société de l'époque. Et ça va donner en fait de 1900 à 1917, tenez-vous bien, à peu près 25 000 à 30 000 attentats de ce type, qui vont devenir en plus de plus en plus suicidaires, pour à peu près 17 000 morts. Rappelez-vous qu'à l'époque, les armes à feu ne sont pas si nombreuses, ce qui veut dire en fait un nombre d'exécutions spontanées, gratuites, qui vont créer ce climat qui va amener 1917 et la révolution bolchevique.
Là, ce dont vous parlez, c'est effectivement c'est la Russie, hein, où ça va prendre une ampleur considérable. Parmi les têtes couronnées qui sont frappées, il y a le Guillaume Ier d'Allemagne, il y échappe, hein, à l'attentat Alphonse XII d'Espagne aussi, Umberto Ier d'Italie, mais le tsar Alexandre Ier est assassiné, le président de la République française, Sadi Carnot, est assassiné à coup de couteau par un anarchiste italien de 20 ans, le président des États-Unis, William McKinley. Les chefs d'État étaient moins bien protégés qu'aujourd'hui, hein, il faut dire. Alors en Russie, vous l'avez dit, c'est le pays le plus touché. Les démons de Dostoïevski se sera inspiré par Netchaïev, qui est un terroriste nihiliste. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment ça s'arrête ? Pourquoi et comment est-ce qu'à un moment ça s'arrête ? Sachant qu'à l'époque, en Russie, c'est terrible, vous l'avez dit. C'est une espèce de furia religieuse, hein, quasiment, à l'époque.
Alors peut-être la furia religieuse, on va essayer d'expliquer comment ça a pu s'arrêter. La furia religieuse, parce qu'effectivement, c'est une société qui est totalement imprégnée de l'orthodoxie, qui est partout, et qui véritablement, je dirais, scande, rythme, symbolise la vie quotidienne. Les terroristes n'échappent pas à cela. En fait, ils accomplissent pour eux, ils le disent, des rites sanglants. Dans l'organisation de combat, il y a des femmes. Elles veulent se sacrifier, elles veulent gagner l'immortalité en déclenchant l'apocalypse. C'est ainsi qu'elles parlent lorsqu'elles se font arrêter, n'est-ce pas ? Et ces femmes-là sont tout à fait aussi redoutables, mais elles se veulent des prêtresses de l'homme nouveau, d'un ordre nouveau, et elles engagent même leurs enfants. Vous voyez, il y en a une d'entre elles qui va même je dirais, scotcher des kilos de nitroglycérine sur sa fille de 3 ans pour l'envoyer mourir dans un commissariat. Donc de ce point de vue-là, je veux dire, le pire est déjà venu au 19e siècle. Une mère qui sacrifie sa fille. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de croyance fiévreuse dans une sorte d'éternité immédiate. Il faut que le ciel descende sur terre. Il ne veut pas descendre, on va le forcer par la violence politique.
Pourquoi ça marche tant en Russie, d'après vous, Jean-François Colosimo ?
Alors parce que la Russie, c'est la société totalement bouleversée par l'industrialisation. C'est-à-dire que la Russie, d'un coup, décide de devenir une grande puissance et elle prend véritablement ses populations des campagnes, les parcs dans des villes qui, du coup, deviennent des mégalopoles, dans ces zones périphériques urbaines qu'on n'appelle pas encore banlieues, les gens végètent, ils sont complètement, ce sont des déracinés, n'est-ce pas ? Leurs enfants sont des déclassés. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, on rend l'école obligatoire. Et alors, ces enfants qui vont à l'école, à l'université, voilà qu'ils en savent assez pour comprendre que ça ne va pas, mais ils n'en savent pas assez non plus pour pouvoir accéder au monde du pouvoir. Donc ces déclassés vont, je dirais, se rebeller de la manière la plus radicale qui soit. Ce monde qui ne veut pas d'eux doit disparaître. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont recruter parmi les simples, parmi les paysans analphabètes qui sont devenus des ouvriers dans ces banlieues désertées. Et puis, ils vont recruter dans les prisons en offrant aux criminels de droit commun une chance de rédemption.
On va voir comment tout cela s'est arrêté, mais juste après une pause.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
Au tournant du 19e et du 20e siècle, pendant environ plus de 30 ans, les anarchistes se livrent à une propagande spectaculaire et violente dans toute l'Europe, avec des attentats, des assassinats, et puis ça va s'arrêter. Alors en Russie, puisque c'est là où c'est allé le plus loin, Jean-François Colosimo, comment est-ce que ça s'est arrêté ? Pourquoi ?
Ça s'arrête parce que Lénine voit que son frère, qui a été un de ces anarchistes, est pendu. Donc c'est une voie politique sans issue et Lénine va dire il faut qu'on s'empare de l'État et que la terreur soit diffusée à partir du sommet de l'État. Il faut que l'État devienne terroriste en quelque sorte, ça sera l'Union soviétique, n'est-ce pas, plutôt que de faire des actions sporadiques. Donc on voit qu'il y a un double dépassement qu'on va retrouver en France. D'une part, eh bien, on va renforcer l'État, dans le cas soviétique c'est assez clair, hein, c'est l'État totalitaire, tentaculaire. Et puis, en même temps, on voit qu'il y a un dépassement politique. Il faut quand même dire, parce qu'il faut le dire, que ces anarchistes violents, ces anarchistes terroristes sont largement dénoncés, évidemment, par une grande mouvance anarchiste qui ne se reconnaît pas du tout dans cette violence légitimée, violence divine, violence de droit divin, n'est-ce pas, violence de la justice immanente.
Il s'aliène même tout. Une partie de la population qu'ils sont censés défendre, en fait.
Bien entendu, puisque vous savez que c'est quand même un peu tout le problème des révolutionnaires. C'est que les révolutionnaires font des grands discours aux villageois pour leur demander de se mobiliser et les villageois appellent la police pour dire que les révolutionnaires sont passés par là. Il y a une fiction du peuple, évidemment, dans le mouvement révolutionnaire. Alors en France, on va avoir la même chose. Alors d'une part, il y a cette réaction.
Alors il faut savoir qu'en France, il y a un président de la République qui meurt, Sadi Carnot,
oui.
Mais il y a aussi une bombe qui est lancée dans l'Assemblée nationale.
Ouais, dans l'Assemblée des députés, incroyable. Par Vaillant, qui voilà. Sera guillotiné.
Voilà, il y a Ravachol qui lui, commet des attentats contre des magistrats. Il y a les commissariats de police de Paris qui sont attaqués en 1888. Il y a le palais de justice de Lyon. Il y a l'attentat contre le café Terminus. Ça va loin, hein, en
oui,
France aussi.
Oui, c'est une vague énorme. Et puis c'est une vague qui saisit d'effroi la population. Elle obtient le résultat tout à fait inverse qu'elle recherche. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas ça que ce mouvement suicidaire recherche ? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça tout de même ? C'est dispenser la terreur, l'apocalypse, et puis de n'avoir pas de lendemain, il n'y a pas de jour d'après pour eux.
C'est
évidemment.
Le nihilisme. C'est le nihilisme. C'est la bande à Bono qui termine.
La bande à Bono, avec le lien avec la criminalité. Hein. Et alors, donc, en France, c'est pareil. Il y a une scission, évidemment, chez les anarchistes, et puis il y a une réponse de l'État. Et cette réponse de l'État, elle va poser un grave problème. Pourquoi ? Parce que l'État va à la fois dans le domaine juridique et policier s'octroyer des pouvoirs d'exception qui menacent l'État de droit, n'est-ce pas ?
C'est ce qu'on appelle les lois scélérates.
Voilà, les lois scélérates, c'est la dénonciation plus tard par Léon Blum, d'ailleurs sous pseudo hein, à ce moment-là, puisque qu'est-ce qui se passe ? On passe trois lois, n'est-ce pas ? Ces trois-là, on les passe en 1893, 1894. Alors la première, elle est simple. Qu'est-ce qu'elle dit ? elle dit que elle casse la loi de 1881 sur les libertés de presse. Elle dit que toute apologie de crime sera punie immédiatement. Et ça, donc, là, il y a un problème de liberté fondamentale, n'est-ce pas ? Parce que où commence et où finit l'apologie de crime ? La deuxième loi, qui suit quatre jours plus tard, eh bien, elle pose deux principes. C'est qu'il suffit d'avoir l'intention pour être coupable, ce qui est quand même, bon, en termes de, là encore, en termes d'histoire du droit, et quand même, vous voyez, l'intention, là aussi, qui la décrypte, qui vous assigne, qui dit quelle était votre intention, comment on fait avec ça, et puis entre l'intention et le passage à l'acte, il y a quand même, vous voyez...
C'est ceux qui réclament aujourd'hui que soient internés tous les fichiers S, qui sont fichés parce qu'on les soupçonne d'avoir l'intention, mais qui n'ont pas encore commis d'infraction.
Et en plus, on court la délation par cette loi. Et on amenait que la police puisse être provocatrice, c'est-à-dire faut monter elle-même de faux attentats pour forcer les gens à se débusquer. Et puis, la troisième loi, c'est l'interdiction de l'anarchisme. Alors, la troisième loi, évidemment, elle ne survivra pas parce qu'elle n'a pas de sens, mais les deux autres, elles vont être réanimées, réactivées en 1985, lors de la vague d'attentats à la rue de Rennes qui vient du Moyen-Orient, mais elle va être surtout réactivée dans les années 2013-2015. Et en fait, c'est ce qui fait, par exemple, que c'est en raison de la réactivation de ces lois que n'importe quel gilet jaune est susceptible de comparution immédiate. Donc on voit que c'est tout le problème des démocraties. Comment combattre un mal absolu, invisible, un mal radical qui n'a peur de rien ?
Mais en même temps, on voit bien, et je pense que les anarchistes à l'époque se rendent compte que les attentats n'affaiblissent pas l'État qu'ils visent. Au contraire, il durcit son appareil policier, son appareil répressif, et c'est la population toujours qui en pâtit. Ils vont avoir, à ce moment-là, il y a une partie, ils vont se reconvertir les anarchistes. Ils vont se rendre compte que tout ça ne mène à rien, ils s'aliènent la population, l'État se renforce et eux, ils restent.
Oui, mais enfin, la fascination russe, elle va durer jusqu'en 1900 à peu près. C'est Louise Michel qui glorifie le grand parti nihiliste russe et demande aux anarchistes français de faire de même. Cette ligne-là, elle va cesser. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Les anarchistes vont s'occuper de la vraie question qui est le sort des travailleurs et le travail pédagogique pour éveiller chez les travailleurs la volonté du changement. Ça va être la très belle école de l'anarcho-syndicalisme, page glorieuse de la vie politique et intellectuelle française.
Ils vont créer des syndicats, des coopératives, des bourses du travail. Bref, ils vont se substituer au pouvoir en place pour montrer ce que ce serait si l'anarchie régnait, mais la belle anarchie, pas l'anarchie violente.
Plutôt que l'apocalypse, ils vont essayer de montrer qu'effectivement, le changement commence maintenant et participe lui aussi des intentions mais d'intention positive pour le coup.
Et l'anarchie, les attentats, ça se termine avec la Première Guerre mondiale, finalement, ça va disparaître entièrement dans toute l'Europe ?
Oui, à part que ça va reprendre plus tard avec l'international, effectivement, gauchiste, la bande à Badère, les brigades rouges.
Dans les années 70, vous voulez
Chaque fois qu'il y a une impasse politique, on va voir le mouvement terroriste ressurgir. Et chaque fois, en fait, l'État va être placé face à la question de la liberté.
Merci Jean-François Colosimo. Je rappelle que Aveuglement, religion, guerre, civilisation est ressorti l'année dernière en poche.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Bonjour Marcelo Westfred, vous êtes grand reporter au service politique du Parisien et vous publiez Le Jardin secret de la République aux éditions Plon. Alors Le Jardin secret de la République, c'est une forêt de plusieurs milliers d'hectares autour du château de Chambord, une forêt interdite au public. Elle est entourée d'un mur de 32 km de long et derrière ont lieu des choses très privées. C'était autrefois les chasses présidentielles, on les appelle aujourd'hui les battues de la République, c'est ça ?
Oui, il y a même un terme, c'est les battues de régulation, qui est un terme euphémistique, parce qu'en fait, il s'agit de ne pas nommer les choses, mais c'est l'équivalent de ce qu'étaient les chasses présidentielles avant, sauf que ce n'est pas totalement organisé par l'Élysée.
Alors, il y a 36 invités réunis par semaine, de novembre à février, donc 500 personnes par an, ce qui fait beaucoup d'envieux et beaucoup fantasmer. On parle de diplomatie secrète, de rencontres inavouables, de contrats d'armement qui sont signés, de lobbying. C'est vrai qu'on est à une époque où la transparence est devenue une valeur, notamment dans la vie politique. Donc, tout le monde se pose la question, qui est invité? Et vous démarrez ce livre en disant que c'est très difficile de le savoir, justement.
Alors, c'est drôle parce que quand j'ai commencé au début, les gens me racontaient en quoi consistait ce type de chasse. Mais par exemple, ils me parlaient du petit déjeuner. Ça a lieu dans ce qu'on appelle la salle des chasses du château. On est quand même dans le château de François Ier. Il y a la bûche qui dans la cheminée. Donc c'est très sympa. Donc les gens me racontent ça. Mais quand je leur demande qui était à votre gauche, ils ne se souviennent plus. Qui était à votre droite, en face, personne ne se souvient. Donc il y a un côté extrêmement confidentiel. Les gens, en fait, veulent être à nouveau invités. Et pour être à nouveau invité, il faut conserver quoi ? Le secret. Donc, tout le travail du livre a été de remonter le fil, de savoir qui venait, comment ça se passait. Et c'était ça l'enjeu.
Mais est-ce que c'est si important que cela de savoir qui vient, qui participe à ces battues de régulation ? Après tout, personne ne demande au préfet qu'il invite à déjeuner. On ne sait pas la liste des gens qui déjeunent dans nos ambassades un peu partout dans le monde. On n'en fait pas un problème. Là, tout à coup, on a l'impression que c'est l'argent du contribuable et qu'on a le droit de savoir.
Ce serait une chasse privée chez les Rothschild, chez les Bouygues, dans les grandes familles qui ont des terrains dans le coin, ce serait pas grave, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Là, on est à mi-chemin entre c'est bien que l'État ait ses zones, un peu ses bulles secrètes pour faire ses relations publiques, et en même temps, est-ce qu'on peut se contenter de dire que c'est totalement secret, sachant que vous pouvez avoir un phénomène de copinage assez rapidement qui s'installe. Et d'ailleurs, on voit, il y a des gens qui sont là, invités, depuis quasiment les années 70. Je prends un exemple, par exemple, le sénateur Ladislas Poniatowski, il est là, son père était déjà là sous Pompidou. Donc vous avez aussi besoin, peut-être, un petit peu qu'on regarde ce qui s'y passe. Donc c'est cet entre-deux.
D'après votre enquête, Marcello, il y aurait peu de femmes, parce qu'elles ne s'intéressent pas à la chasse. Il n'y aurait pas d'écolos, parce qu'on ne les invite pas.
Alors, il y en a un que j'ai quand même trouvé, Nicolas Vanier, vous savez, l'explorateur qui fait des films sur la beauté d'animal, etc., qui d'ailleurs a un combat actuellement qui est de lutter contre ce qu'on appelle l'engrillagement en Sologne, c'est-à-dire ces grandes propriétés qui mettent des grillages, comme ça ils peuvent tuer du sanglier, le sanglier n'a aucune chance de sortir, etc. Ils protestent, ce qui est tout à fait compréhensible, mais en même temps, Chambord, c'est 32 km de mur, c'est le plus grand parc fermé. C'est un peu contradictoire d'une certaine façon.
On peut venir et ne pas tirer. Le tir n'est pas obligatoire.
Alors, le tir n'est
peut-être
pas obligatoire.
Nicolas Vanier ne tire pas.
Alors, lui, il tire, puisque là, je cite le maire de Chambord qui raconte un petit peu tout ça. Il y a des gens, effectivement.
Mais est-ce qu'il y était, le maire de Chambord ?
Alors, le maire de Chambord, il y va. Il y va très souvent. Même à une époque, il avait une battue en son nom. Elle n'existe plus. C'est tout l'objet, d'ailleurs, d'un chapitre, parce qu'il y a une sorte de. C'est l'État dans sa toute-puissance, Chambord. Alors, le maire qui est là, vous savez que dans la commune de Chambord, il n'est même pas propriétaire de la mairie. La mairie n'a rien. Les habitants ne sont pas propriétaires de leur maison.
Tout appartient à l'État.
Tout, y compris la petite église, elle a un statut, elle appartient à l'État, c'est-à-dire qu'elle est l'équivalent d'une cathédrale.
Alors, il n'y a pas non plus de gens d'extrême droite. Les élus d'extrême droite ne sont pas invités, d'après ce que vous racontez, et jamais de journalistes.
Alors, il y a peut-être quelques journalistes. Il y a quelques journalistes de la presse cinégétique, par exemple, qui viennent, qui sont invités. Mais en général, il y a très peu de journalistes. Il n'y a pas de journalistes. Il y a essentiellement des politiques, des gens du CAC 40, des diplomates, des gens des grandes familles et beaucoup de mécènes, de gens qui, en fait, donnent de l'argent au château. En échange, on leur permet de chasser. Au fond, le château s'y retrouve. C'est ni vous ni moi qui payons pour la réfection des toitures. Et en échange, ils participent à des battues. Voilà.
Il y a aussi beaucoup d'étrangers. Il y a des ambassadeurs qu'on invite. Il y a des battues qui sont organisées entre Français et Anglais, par exemple. Vous racontez.
Alors ça m'a frappé parce que c'est une battue qui a lieu en plein Brexit. Donc, les relations entre les deux pays sont compliquées. Et on a les deux états-majors des deux armées. Et là, je vous parle de 4 étoiles, 5 étoiles, hein, des très, très hauts gradés. Qui viennent chasser dans des battues ensemble avec un moment, parce que l'État en fout plein la vue quand même, un moment on voit deux Mirage 2000 qui partent de Nancy et qui arrivent au-dessus de la forêt, etc. Moi c'est ça qui m'a un peu halluciné en faisant ce livre, parce que moi je pensais que c'était fini tout ça.
Les Mirage 2000 n'ont pas tiré sur les animaux quand même.
Non.
On chasse du gros gibier, hein, des mouflons, des sangliers, des cerfs, des biches, mais pas au Mirage 2000 quand même.
Ah, pas au Mirage 2000 quand même pas. Et puis je vous rappelle que juste à côté, vous avez quand même 1 million de touristes qui passent chaque année, donc ce sont deux espaces qui se côtoient, mais qui sont très séparés.
Oui, parce qu'il y a quand même une forêt de Chambord qui, elle, est publique.
Il y a 1000 hectares publics et il y a 4400 hectares, c'est-à-dire presque Lyon, fermés.
Alors, il y a une chasse organisée pour Kadhafi, à l'époque où il vient en voyage officiel, en 2007, sous Nicolas Sarkozy. Il y a une chasse qui est organisée pour lui. Nicolas Sarkozy ne s'y rend pas. Il y est tout seul, d'ailleurs, hein, Muammar Kadhafi. Et c'est une catastrophe. Vous la racontez en détail, celle-ci.
Oui, alors, c'est à Rambouillet, qui est l'autre, pendant de Chambord. Alors, ça n'avait jamais été complète. On savait qu'il y avait été, mais on n'avait jamais raconté. Alors là, je me suis fait raconter, y compris par des gardes. Et en fait, c'est assez hallucinant, parce qu'il arrive, il demande à chasser. Alors d'abord, on veut l'envoyer à Chambord et puis après, la cellule diplomatique se rend compte que Chambord, c'est du sanglier, c'est du cochon, donc peut-être que c'est pas la meilleure idée avec un musulman. Donc il l'envoie finalement chasser du faisan à Rambouillet, qui est l'autre grand terrain de l'État pour ce type de chasse. Et là, il demande à avoir des armes automatiques. Alors on lui dit non, c'est pas tout à fait le principe ici. Ici on tire au fusil. Et alors tout avait été fait pour qu'il soit bien. Il était tout seul à tirer, non pas avec d'autres personnes. On lui avait mis de la paille et il sort de sa zone de tir et il se met à tirer. Il loupe tout et donc il se met à tirer les faisans à terre. Et les faisans, vous savez, ils piètent, ce qu'on appelle piéter, c'est-à-dire qu'ils courent, mais les chasseurs, ils tentent de les atteindre
en vol.
Pas, c'est comme si vous tirez sur un animal qui est dans son terrier, il ne peut pas bouger. Donc c'est quelque chose qui est totalement réprouvé par les chasseurs, par l'éthique de la chasse. Bon, lui, il finit par chasser 7-8 faisans, et il sort en disant « c'est génial, faites-moi ça à Tripoli ». Et je vous passe les détails. Il fait venir des toilettes à lui, parce qu'il a peur, il est complètement parano, il a peur que les services secrets fassent des analyses de ses excréments, voir si, etc. Ses services de sécurité demandent qu'on démonte tous les miradors, mais on est dans une zone de chasse, il y a des miradors pour chasser. Donc c'est totalement délirant, et c'est, si vous voulez, l'autre épisode. On connaissait l'épisode de la tente bédouine à l'hôtel de Marigny en face de l'Elysée. Ça, c'est le deuxième épisode au même moment.
On se retrouve dans un instant, on continue de parler de ce jardin secret de la République.
9h-10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Marcelo Westfred, vous êtes l'auteur du Jardin secret de la République qui vient de paraître aux éditions Plon. Vous nous faites pénétrer, ou en tout cas vous soulevez un coin du voile de cet endroit secret qui a fait beaucoup fantasmer, cette fameuse forêt interdite de Chambord, réservée, sur laquelle beaucoup de gens rêvent. Alors, soit parce qu'ils rêveraient d'être invités, soit parce qu'ils se demandent ce qui peut bien se passer derrière ces murs. Et quand on vous lit, au fond, on se dit, mais c'est jamais qu'un rendez-vous de chasseurs, non ? C'est-à-dire que tout ce qu'on a pu imaginer sur les contrats d'armement signés, Jean d'Aussonville qui dirige le domaine de Chambord, le château comme cette forêt, dit que les moments où on peut parler en privé sont quand même assez rares. Hein. On peut juste se revoir au fond, mais est-ce qu'on n'a pas beaucoup imaginé de choses comme on aime à les imaginer aujourd'hui ?
Alors tout, évidemment, le patron du domaine y va minimiser. Alors c'est vrai que sur place, c'est pas un endroit où se nouent des choses. En revanche, c'est là où vous tisser une relation qui se traduira plus tard. Je prends un seul exemple. Je raconte un peu ce que Gérard Mestrallet, un grand patron de l'économie française, qui est là un jour dans une de ses chasses, il y a pas très longtemps, et tombe sur, à l'époque, celui qui est le premier adjoint de la mairie de Moscou, hein, pour vous dire un petit peu le niveau des invités. Et tout ça finit, ils se lient d'amitié. Ils se retrouvent ensuite en Russie. Ils vont chasser ensemble de nuit avec des fusils à infrarouge, l'élan, etc. Ils se tissent une relation qui se traduit ensuite par un immense contrat pour Suez de retraitement des déchets du Grand Moscou, c'est-à-dire 76 stations de métro. Donc, il y a des choses que vous pouvez nouer là, que vous allez ensuite faire fructifier un peu plus tard.
Mais il n'y a rien de répréhensible, je veux dire. Et est-ce qu'on n'a pas, au fond, fantasmé, parce qu'ils chassent, et que c'est très mal vu de chasser aujourd'hui, on tue des animaux, s'ils jouaient aux fléchettes, personne n'en parlerait de ce domaine.
Oui, c'est-à-dire que l'activité aujourd'hui, si vous voulez, les safaris aujourd'hui en Sologne, c'est dans un terrain de l'État, ça a l'air de la transparence. C'est vrai que ça a un peu moins le vent en poupe. Mais moi, ça ne me choque pas que l'État ait des endroits qu'il utilise pour ses relations publiques, finalement, pour son rayonnement, etc.
Ou même ses relations secrètes, éventuellement, d'ailleurs.
Ou ses relations secrètes, hein, finalement, effectivement, dans les ambassades, il se passe des choses. Est-ce qu'on a tous vocation à le savoir ? Peut-être pas. En revanche, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'il peut se passer... il peut y avoir une dérive. Vous pouvez avoir l'invité... Vous pourriez en tout à fait inviter vos amis et personne n'en saurait rien. Or, vous êtes quand même dans un domaine de l'État avec... Hein, c'est quand même les gendarmes qui coupent les routes. Il y a des rabatteurs. Il y a quand même des moyens. Donc, il faut que ça serve. Et pardon, mais il y a des gens qui viennent très souvent. Et on a presque envie que ce soit aussi réservé à des gens que l'État veut mettre en valeur et qui sont peut-être plus anonymes.
Ce qu'on redoute surtout, c'est qu'il y ait des accidents de chasse. Parce que la chasse, c'est quand même un sport dangereux. Et vous dites d'ailleurs, le directeur général de la police nationale, à un moment, a bien failli être tué par un député et futur ministre.
Pierre Lellouche, on est au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il tire... mal, il tire pas du tout, il faut tirer. Et à ce moment-là, Pechnard entend une balle près de son visage. Et comme c'est un flic, il a un réflexe d'autodéfense. Et il est à deux doigts de tirer sur... Il faut bien voir, moi j'y suis allé une fois, je suis assisté à une chasse, il y a tous les 50 mètres quelqu'un. Donc il a failli tirer sur son voisin. S'il y a un mort, alors là, vous avez commission d'enquête, vous avez etc., ce serait la pire catastrophe. Alors, il y a sans arrêt, quand vous arrivez là-bas, les consignes de sécurité qui sont rappelées, vous tirez dans un angle de 30 degrés, etc. On est à la carabine. On n'est pas au fusil, ça tire, c'est mortel jusqu'à 1000 mètres. Donc c'est extrêmement dangereux. Et il y a des gens qui parfois s'affranchissent un peu. Alors on a une anecdote avec Pierre Joxe, que je raconte aussi, le socialiste qui a été ministre de l'Intérieur emblématique de Mitterrand. Il tire lui dans la traque, c'est-à-dire là où se trouvent les rabatteurs, les gens qui viennent pousser les sangliers. Et même il tue un mouflon, qui est un animal qu'on ne tue pas dans ce type de battue. Et alors, certains sont virés. Le louche dont on parlait tout à l'heure est interdit de chasse à Chambord.
Il y a aussi la femme de David Douillet qui était ministre à l'époque et qui a failli être attaquée par un sanglier.
Elle tire sur un sanglier. Le sanglier est un animal dangereux. Le sanglier fait demi-tour et fonce, charge Véronique Douillet qui a un réflexe qui est de se défendre à coup de crosse, qui est un mauvais réflexe. Et c'est le suppléant de David Douillet qui est pas très loin, qui tire et qui tue l'animal. C'est extrêmement dangereux.
Alors jadis, ça s'appelait les chasses présidentielles sous le général de Gaulle, qui ne venait pas, mais ça avait lieu en son nom. Sous Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, c'était très bien assumé. Tous les deux étaient chasseurs. Vous racontez, et je me souviens d'avoir vu les images de Georges Pompidou invitant les journalistes et la télévision à contempler les sangliers qu'il venait d'abattre. À l'époque, ça se faisait, ça ne choquait personne. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Sous François Mitterrand, qui n'était pas chasseur, c'est François de Grossouvre qui s'occupait des chasses présidentielle. Jacques Chirac, lui, était contre la chasse. Curieux. Il a mis fin, lui. Hein.
Il passe son temps à culpabiliser tout le monde. Barouin le raconte dans mon livre. À chaque fois qu'il croise quelqu'un, il lui dit « Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, ce faisant, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Ce cerf, qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Son directeur de cabinet, il l'a terrorisé. Et il obtient de fermer... il veut fermer toutes les chasses présidentielles. En fait, il en ferme quelques-unes. Il ferme Marly le Roi. À partir de là, on a aussi Rambouillet qui va commencer à vivoter. Et Chambord est sauvé avec un argument qui est défendu par Christian Jacob, François Barouin, tous les gens qu'on retrouve aujourd'hui.
Tous ceux qui aiment chasser,
le patron de la région PACA, tous ceux qui sont encore aujourd'hui là, Muselier, ils disent au président... C'est un parc fermé. C'est un cas spécial, Chambord. Si vous laissez les sangliers, ils vont pulluler. Il y en aura tellement qu'après, vous ne saurez plus quoi faire. Alors moi, dans l'enquête que j'ai faite, je vais quand même derrière cet argument, parce que cet argument est un peu fallacieux. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Le domaine, il nourrit ses sangliers. Pourquoi il les nourrit ? Il les nourrit parce qu'il a envie que les invités de prestige ne rentrent pas bredouille. Donc on leur donne, j'ai sorti les chiffres, 200 tonnes de maïs par an pour qu'il y ait suffisamment de sangliers. Donc l'argument, si on ne les tue pas, il va y en avoir trop, rentre en contradiction avec le fait que, loin des caméras, on leur donne un peu à manger pour qu'il y en ait suffisamment à tirer.
Enfin, aujourd'hui, ce ne sont plus des chasses présidentielles. Ça ne se fait plus au nom du président de la République. Ça n'est plus Emmanuel Macron qui invite.
Oui et non, parce qu'effectivement, ce n'est plus Emmanuel Macron. Le carton d'invitation ne vous est pas envoyé par l'Élysée. Ce n'est pas l'Élysée qui vous choisit. En revanche, le conseil d'administration du domaine de Chambord se fait à l'Élysée. Raconte les scènes. Le président du domaine est nommé par le président de la République. Le domaine est depuis 2005 sous la haute protection du président de la République. Il n'y a pas un endroit qui a cette étiquette-là. Et puis, le patron du domaine, il sait qu'il faut faire plaisir un peu à l'Élysée. Donc, il a la haute main sur les invitations, mais il anticipe un peu ce qu'on lui demande. Et donc, il y a quand même un lien extrêmement fort. Et rappelez-vous que Emmanuel Macron est venu en décembre 2017 voir un tableau de chasse à Chambord. Il y a un lien quand même encore très fort.
Merci, Marcelo Vesfrid. Le jardin secret de la République, ça vient de paraître aux éditions Plomb.
Merci à vous.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Clou, vous venez de sortir votre premier album, Orage, et vous serez en concert le 19 novembre au Café de la Danse. Clou, j'ai un peu de mal à vous appeler Clou, c'est un drôle de pseudonyme que vous êtes choisi. Autrefois, les chanteuses se donnaient des noms d'oiseaux, comme Edith Piaf ou la Mère du Christ, ça donnait Madonna. Vous, c'est Clou.
Mais tout le monde ne peut pas s'appeler Durand. Voilà, je n'ai pas mieux que ça.
Non, mais vous allez faciliter le travail des journalistes qui vont pouvoir faire toutes sortes de jeux de mots sur le clou de la fête. Un clou chasse l'autre, ça ce sera pour le c'est deuxième vrai. Album. Ou ça ne vaut pas un clou, j'en passais des meilleurs. Ils vont vous adorer.
Ils vont m'adorer puisque donc, toutes les punchlines sont à disposition pour commencer les papiers, pour les titres, pour les chapeaux, etc. Mais c'est un surnom d'enfance, Clou, je ne l'ai pas vraiment choisi. Hein. Je m'appelle Anne-Claire et mes parents m'ont appelée Anne Clou, puis Clou très vite.
Oui, non, on ne choisit pas Clou. Hein,
on ne choisit pas Clou, on ne choisit pas de s'appeler comme un meuble Ikea, ça c'est sûr.
L'album s'intitule Orage. Il y a une chanson où vous parlez de l'énervement quand il vous gagne. Elle s'intitule Rouge. On en écoute un extrait.
Des mots qu'on me déclare que tout volera, c'est certain. Une balle sans impact, pour moi, ça ne sert à rien. Et je vois rouge, rouge. De chien, je suis à deux doigts du dictateur, je fais le mal pour mon bien, et je vois rouge, 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 oh, je vois rouge, 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 et je vois rouge, rouge, oh, je vois rouge, rouge.
Les gens, dit-on, sont de plus en plus en colère aussi, tapent du poing, s'indignent de plus en plus facilement. C'est l'époque qui voit rouge ou c'est vous qui voyez rouge toute seule dans votre coin?
Je pense que tout le monde voit rouge, tout le monde a envie de s'énerver.
Tout le monde a envie de tuer son voisin.
Mais non, mais c'est bien, c'est libérer la parole déjà, c'est exprimer sa colère et c'est une manière de libérer un petit peu les tempêtes intérieures qu'on a. Je pense que c'est bien de se mettre en colère.
Jusqu'ici tout va bien, c'est une phrase qui revenait dans La Haine il y a 25 ans, le film de Mathieu Kassovitz. C'est également le titre d'une de vos chansons.
Tu en joues. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien.
C'est Dan Lévy du groupe The Do qui a réalisé le disque et arrangé vos chansons. Vous avez une voix au perché comme Jane Birkin, comme Kate Bush. Qu'est-ce que ça implique? Quelle influence ça a sur vos chansons? Est-ce que vous dites non, ça je peux pas le faire ou ça c'est bon pour moi?
Bien sûr que ça change plein de choses. Déjà, on compose dans le haut du clavier et pas dans le bas. Sinon, ça change pas grand-chose. Finalement, ça reste des mélodies, j'espère, qui sont intéressantes, même si c'est au perché.
Et vous n'avez pas la même voix quand vous parlez, hein?
Vous trouvez?
Ah oui, non, ça n'a rien
à voir. On m'a dit que j'avais la voix de Lara Fabian quand je parlais. On m'a dit ça hier.
Et de Jane Birkin quand vous chantez.
J'espère que je ris comme Clou. Voilà.
Vous avez travaillé dans la mode avant de tout plaquer pour vous lancer dans la chanson. Quelle trace l'industrie du vêtement a-t-elle laissé sur vous?
Une trace indélébile, une trace terrible, formidable. J'ai découvert qu'un vêtement pouvait vous aider à vous sentir bien et heureux dans la vie.
Oui, ça c'est ce que vous disiez quand vous étiez attaché de place. Mais les gens de la mode, par exemple, paraissent toujours pressés. Est-ce que vous l'étiez? Est-ce que vous êtes resté?
Oui, je ne suis pas très patiente. Mais je pense que c'est des métiers où on ne peut pas être patient. Par contre, pressée, je ne sais pas si je suis pressée. Non, je ne crois pas. Non, je pense que je prends mon temps pour faire les choses.
On écoute un extrait de Kobo Cinéma.
Tant pis si c'est faux, moi je veux jouer. Le cœur bat battant la gorge nouée, me révéler sauvage et le texte inventé, abîmer mon image et l'écran crevé. Moi je veux vivre comme au cinéma, en plan américain avec la musique qui marque mes pas et la nuit qui m'appartient. Moi je veux vivre comme au cinéma, d'un scénario de rien, et si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin. Si c'est mauvais, mauvais, je couperai la fin.
Il y a eu beaucoup de chansons, Clou, sur le cinéma, la gloire du cinéma. Souvent, elle... quand elle faisait allusion à avoir une vie comme au cinéma, c'était pour sublimer sa propre vie. Vous, j'ai l'impression que c'est le contraire. Alors, c'est peut-être le cinéma qui a changé. Vous dites un petit scénario de rien, ça me suffira.
Mais les grands films, c'est pas forcément un scénario extraordinairement compliqué. Je pense que un bon film, c'est un film passionné, avec un point de vue. C'est comme un bon livre, c'est le style avant tout.
On voit bien que vous ne vous voyez pas comme Marilyn Monroe ou James Dean.
Mais si, j'aimerais bien, mais bien sûr que si.
Ah, pas dans cette chanson, non, j'ai l'impression que...
Mais non, mais cette chanson ne parle pas vraiment de cinéma, elle parle de vivre comme au cinéma. Et donc c'est vivre une vie passionnée. Pas forcément passionnante, mais passionnée, à fond.
Pas forcément passionnante, ouais. C'est amusant. Vous n'avez pas l'impression que vous arrivez dans la musique au pire moment avec la crise du Covid ?
Mais pourquoi ? Mais c'est pas sympa. Mais déjà, ça fait
mais
un
si,
bout de temps que je suis là.
C'est sympa pour vous.
Non, ça fait 4-5 ans que je suis là. Et donc,
non, mais là, c'est le premier album. Là, c'est, voilà, c'est... là, vous serez au Café de la Danse le 19 novembre, mais ça peut être interdit à tout moment, vous le
ça
savez bien.
Ça peut être interdit à tout moment, c'est les risques du métier. Non, il faut être philosophe, c'est comme ça. Ça devait se passer comme ça, ça se passe comme ça. On s'adapte.
Merci, Clou.
Vous n'y arrivez pas ?
Si, j'y arrive. Je me dis, mais moi, je vous ai en face de moi. Mais pour ceux qui nous écoutent, je me dis, ça devait en paraître bizarre que j'appelle quelqu'un Clou.
Mais pas du tout.
Vous imaginez qu'on vous appellera encore Clou quand vous aurez 70, 80 ans. Et
mais
j'espère pour
pas.
Vous, vous ferez la même carrière que Johnny Hallyday ou Mick Jagger.
Mais j'adorerais qu'on m'appelle Clou à 70 ans, mais bien sûr.
Eh bien, alors tout va bien.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain à 9h. Vous voyez, j'ai plus de voix. Mickaël Darmon est entré dans le studio, qui est l'invité du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos.
Il n'y a pas de cause à effet, j'espère. C'est Emmanuel Wargon qui est donc l'invité du grand rendez-vous. Vous savez, deuxième vague du coronavirus qui atteint le pays. Comment concilier confiance et prudence ? C'est le casse-tête du gouvernement.
Merci, Mickaël. À tout de suite.